Bonjour à tous. À la une ce matin, et si des pirates s'invitaient dans votre canapé, une nouvelle faille informatique vient d'être décelée. Elle permet en quelques minutes de s'infiltrer dans votre réseau Wi-Fi. Presque un jeu d'enfant, nous dira Hélène Chevalier dans un instant. À l'étranger, la bataille de Raqqa en Syrie et le témoignage rare de notre envoyé spécial sur place. Omar Waman a rencontré des familles de djihadistes français partis combattre en Syrie. Quand François fait la leçon à Donald, première conférence à l'étranger cette nuit pour François Hollande, c'était en Corée du Sud. L'ex-président s'en prend à la politique internationale de Donald Trump. Enfin, toujours à l'étranger, le ciel au secours des pompiers au Portugal. La pluie qui tombe en masse a éteint les incendies, mais la polémique enfle toujours dans le pays. Dans 20 minutes, question sur la justice. Quelle réforme? À quoi ressemblera la nouvelle carte judiciaire? Vous posez la question, Nicolas, à votre invité.
L'invité, oui, de France Inter et la ministre de la Justice, garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Vous pouvez lui poser toutes les questions que vous souhaitez au 01 45 24 7000.
Dans ce journal également, nouvelle douche froide pour les fonctionnaires. Le plan de revalorisation des carrières est repoussé d'un an. Des PV plus salés à partir du mois de janvier. Les amendes pour stationnement devraient flamber dans la majorité des communes. Et puis le palmarès du prix des Indés, ce sera tout à l'heure à la fin du journal. Si vous êtes du genre parano, ce qui suit ne devrait pas vous faire du bien. Un chercheur belge vient donc de détecter l'une des plus grosses failles informatiques de ces dernières années. Elle nous concerne tous ou presque dès lors que nous connectons un téléphone ou un ordinateur à un réseau Wi-Fi, c'est-à-dire à peu près tout le temps. Oui. Bonjour Hélène Chevalier.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'on risque? Quelle est la faille?
Eh bien potentiellement, on risque de se faire dérober toutes les données que l'on échange en utilisant le réseau Wi-Fi, les mots de passe, coordonnées bancaires, mails, photos. La faille touche au WPA2. C'est le protocole qui sécurise les connexions entre la borne Wi-Fi et n'importe quel terminal qui est connecté, un smartphone, un ordinateur, mais aussi une télévision. Ce que prouve ce chercheur de l'université de Louvain, c'est qu'un hacker mal intentionné peut récupérer les informations échangées. Par exemple, vous êtes avec votre smartphone marque dans un parc, vous connectez au Wi-Fi public pour faire un achat sur Internet. Le hacker peut, s'il est à proximité, récupérer les données bancaires que vous venez de renseigner.
Est-ce qu'on sait si des pirates se sont déjà engouffrés dans cette brèche?
Eh bien, pour le moment, non. Alors, ce qui est rassurant tout de même, c'est que cette vulnérabilité n'est pas à la portée de tout le monde. L'attaque est assez complexe à mettre en œuvre et ne peut être réalisée que si le pirate informatique est à proximité du Wi-Fi.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour se protéger? Ça ne sert à rien par exemple de changer ses mots de passe?
À rien du tout. La problématique Merci. De cette vulnérabilité c'est qu'elle est dans la construction même du réseau Wi-Fi. En attendant qu'un nouveau protocole soit mis en place, qui va prendre beaucoup de temps, ce sont nos appareils qu'il faut protéger en téléchargeant des mises à jour avec des patchs de sécurité. Microsoft aurait déjà mis à disposition des mises à jour pour Windows 7, 8 et 10. Ce n'est pas encore le cas pour Apple. Celle pour Google n'est prévue que dans 3 semaines. Et pourtant, selon le chercheur, les smartphones sous Android seraient les plus vulnérables. En attendant, on évite donc les réseaux Wi-Fi.
Merci Hélène Chevalier. Dans la foulée de cette étude, l'Agence américaine de sécurité informatique lance une alerte. Pour en savoir plus, connectez-vous sans Wi-Fi, bien sûr, au site franceinter.fr. Vous y trouverez notamment la vidéo dans laquelle ce chercheur belge explique cette faille informatique.
Et maintenant, direction Raqqa en Syrie.
Pour ce qui n'est sans doute qu'une question de jour, désormais, la chute de l'ancien bastion du groupe État islamique. La ville d'où avaient été pilotés les attentats du 13 novembre à Paris et Saint-Denis. On le sait, l'assaut final a été lancé ces derniers jours et ne reste sur place que quelques centaines de djihadistes étrangers, les derniers à combattre. Notre envoyé spécial Omar Waman s'est rendu dans un camp de réfugiés à une cinquantaine de kilomètres de Raqqa. Nous avons pu le joindre il y a quelques minutes. Il a eu la surprise sur place de tomber sur des familles françaises, des femmes, des enfants, sans doute ceux de djihadistes français et qui sont aujourd'hui piégés sur place.
Oui, c'est ce camp de déplacés qui, au mois de juin, ne comptait qu'une dizaine de milliers de déplacés. Et depuis, c'est à perte de vue. Et dans ce camp, il y a une partie réservée aux familles étrangères. Au mois de juin, elles étaient quelques-unes, une poignée libanaise, maghrébine, du Daghestan. Et depuis, de très nombreuses mamans sont arrivées avec leurs enfants. Et hier matin, je suis entré dans ce camp et j'ai entendu des enfants jouer en français. Ils avaient entre 5 et 8 ans, plusieurs enfants. Je me suis approché et je leur ai dit, écoutez, ça va les enfants, vous parlez français? Et ils m'ont regardé avec des yeux écarquillés, ils m'ont dit, oui, on est français. Et je leur ai dit, écoutez, voilà, dites à vos mamans qu'il y a un journaliste français et que j'aimerais leur parler. Les enfants sont partis, quelques secondes après, ça n'a pas été très long, les mamans sont arrivées. Ils m'ont dit, il faut qu'on vous parle, on est là, on n'a pas de passeport, on n'a pas de téléphone, on n'a pas d'argent, on est coupé du monde, on veut rentrer à la maison. J'ai dit, mais pourquoi êtes-vous allé à Raqqa? Ils m'ont dit, à ce moment-là, quand on l'a fait, on n'avait pas le sentiment d'avoir fait une erreur, En revanche, aujourd'hui, a posteriori, on a fait une grosse erreur. Je leur ai dit, écoutez, moi, je ne suis pas censé vous parler, je suis journaliste, on va essayer de s'éloigner pour faire une interview. Et là, à ce moment-là, des combattants kurdes sont arrivés et ont interrompu la conversation.
Voilà le témoignage donc de l'envoyé spécial de France Inter en Syrie, Omar Waman, qu'on retrouvera bien sûr dans nos prochaines éditions. Quand l'ex-président fait la leçon, François Hollande a étrenné cette nuit ses nouveaux habits de conférencier. C'était à Séoul, en Corée du Sud. Première conférence depuis son départ de l'Élysée. L'ex-chef de l'État s'en est pris à Donald Trump et à sa position dans le dossier nucléaire iranien. Reportage Frédéric Ojardias.
Je vous demande d'accueillir chaleureusement, monsieur le président François Hollande.
Un gymnase bardé d'écrans géants, un parterre de VIP en cravate et costume sombre, et un François Hollande devenu conférencier international aux côtés d'invités prestigieux tels qu'Hillary Clinton ou Ban Ki-moon.
Je m'adresse à vous dans un contexte géopolitique particulièrement préoccupant.
Dans un discours plutôt convenu, François Hollande a parlé géopolitique et crise nucléaire. Il a vertement critiqué le président américain Donald Trump, qui vient de décertifier l'accord nucléaire iranien et qui continue ses provocations verbales visant la Corée du Nord. L'ex-chef de l'État a appelé la France et l'Europe à se montrer plus actives pour éviter une escalade sur la péninsule coréenne. Depuis Séoul, François Hollande a aussi taclé indirectement son successeur Emmanuel Macron, défendant une fiscalité juste et équilibrée. Il n'a pas voulu dévoiler le montant de sa rémunération pour cette conférence payée plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais il a promis d'en reverser la majorité à sa nouvelle fondation. Séoul.
Thank you very much, Monsieur Hollande.
Frédéric Ojardias, RFI pour France Inter.
Il est 8h07 au Portugal, Marc. La bonne nouvelle est venue du ciel.
Il l'espérait, il l'attendait depuis des semaines. La pluie qui tombe ces dernières heures va enfin permettre aux pompiers de souffler un peu. Les incendies qui ont ravagé le centre et le nord du pays ont fait 36 morts, provoqué des milliers d'évacuations. Ils font suite à ceux de juin dernier, déjà catastrophiques. Le feu s'éteint, Olivier Bonamici, mais pas la polémique.
Les Portugais étaient loin de se douter que 4 mois après, l'histoire allait se répéter et l'opinion publique est partagée ce matin entre incompréhension et révolte avec une question. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas tiré les leçons du drame de juin dernier ? Dans une allocution télévisée hier soir, le Premier ministre Antonio Costa a promis d'engager deux réformes. Celle de la forêt pour réduire la plantation d'eucalyptus, une espèce très inflammable et très utilisée dans l'industrie du papier, qui a un poids considérable dans les exportations portugaises. Autre réforme en vue, celle de la protection civile, mise en cause dans plusieurs enquêtes. En juin dernier, de nombreuses défaillances, notamment en matière de communication, avaient été décelées. Cela avait empêché, par exemple, les pompiers de se parler entre eux. Mais il faudra aller très vite, car les Portugais partagent l'opinion du Premier ministre, qui déclarait hier soir, après ces deux drames en l'espace de 4 mois, plus rien ne sera comme avant. À Lisbonne, Olivier Bonamici pour France Inter.
Plus au nord, c'est la tempête Ophélia qui a balayé les îles britanniques, faisant 3 morts en Irlande avec des rafales jusqu'à 190 km/h en pointe. Elle s'évacue désormais, cette tempête, par l'Écosse. En France, c'est aussi la sécheresse qui continue. Conséquence, dans l'Ardèche, la récolte des châtaignes s'annonce catastrophique d'après les producteurs. Elle pourrait chuter de 50 à 80% cette année. Le département fournit à lui seul la moitié de la production française.
France Inter, 8h09, ils espéraient un geste. Ils sont ressortis bredouilles.
Décidément, les fonctionnaires ne sont pas à la fête. En ce début de quinquennat, il y avait déjà le gel du point d'indice, le retour du jour de carence également. Hier, ils ont appris que le plan de revalorisation des carrières, mis en place sous le dernier quinquennat, allait être reporté. Les hausses promises pour 2018 ne s'appliqueront qu'un an plus tard. À la sortie de la réunion à Bercy, le négociateur de la CGT, Baptiste Talbot, en appelle à une nouvelle journée d'action.
Ce qu'il ressort, c'est que les fonctionnaires agents publics sont les sacrifiés de la politique de ce gouvernement, qu'Emmanuel Macron est bien le président des riches et qu'il n'est en aucun cas le président des agents publics et des fonctionnaires. On considère que la situation salariale entre l'entrée de la réunion et la sortie de la réunion s'est dégradée. Le ministre a exclu tout geste à ce stade sur le point d'indice. Il a même laissé entendre que lorsque nous discuterons réellement salaire, eh bien nous discuterons avant tout rémunération au mérite, et il semble même exclure par principe des mesures générales. Donc c'est une grande insatisfaction qui se manifeste aujourd'hui Et donc nous considérons que ce qui est à l'ordre du jour au sortir de cette réunion, eh bien, c'est le prolongement de l'action du 10 octobre et la CGT va faire tout son possible pour continuer de construire le rapport de force dans l'unité la plus large possible.
Baptiste Talbot de la CGT fonctionnaire au micro de Maxime Deps. L'autre dossier chaud, c'est la hausse de la CSG. Là, les fonctionnaires ont obtenu qu'elle soit compensée à l'euro près pour les fonctionnaires actuels comme pour les prochains, les futurs. Il n'y aura en revanche ni gain ni perte de pouvoir d'achat. Attendez-vous à des perturbations vendredi dans les transports régionaux. 127 préavis de grève ont été déposés dans toute la France après l'échec des négociations sur les salaires dans la branche. Des difficultés sont à prévoir à Marseille, à Lille, à Lyon, Grenoble ou encore Bordeaux et Montpellier. Grève également dans l'audiovisuel public. Elle touche aujourd'hui les antennes de Radio France et de France Télévisions contre la baisse des crédits alors que débute aujourd'hui l'examen du budget à l'Assemblée nationale. Celui de l'audiovisuel public doit baisser de 80 millions l'an prochain.
Il est 8h11, la suite du journal avec Marc Fauvel. Là, ce n'est pas une grève, mais un mouvement de colère.
Porte close aujourd'hui dans les offices HLM pour protester contre la baisse des loyers que veut leur imposer le gouvernement. La mesure va leur coûter 1,7 milliard d'euros, alors même, Hélène Philippe, que la moitié des offices seraient déjà déficitaires.
Ils seront 120 dans le rouge dès la fin de l'année prochaine. Tous les acteurs du secteur sont d'accord sur ce chiffre. Et pour beaucoup d'autres organismes, l'horizon, c'est 3 ans. Après, les caisses seront vides. Car les professionnels l'affirment, elle n'existe pas, cette cagnotte. Ces réserves évoquées dimanche soir par Emmanuel Macron. C'est comme si on disait que les entreprises étaient assises sur un tas d'or parce qu'elles ont 2 mois et demi de trésorerie. L'argent ne dort pas, s'insurgent les organismes HLM. Ils réinjectent tous leurs excédents dans la construction, la rénovation ou l'entretien. Aujourd'hui, pas une opération ne sort de terre sans qu'on mette près de 15% au pot, insiste le président de la Fédération des offices publics de l'habitat. Ce n'est pas un choc, mais une chute de l'offre qui va se produire. Dans le bâtiment, on commence même à s'inquiéter d'une atrophie des carnets de commandes. Les promoteurs privés aussi, contraints de construire du logement social, à qui vendront-ils si les HLM n'achètent plus ? Les professionnels attendaient que le président ouvre un débat. Ils sont déçus et c'est un euphémisme.
Hélène Philly, voilà des prunes au goût amer. Dans un peu plus de 2 mois, le 1er janvier prochain, les villes pourront désormais fixer librement le montant des PV pour stationnement et l'addition risque de se corser. À en croire l'association 40 millions d'automobilistes qui a recensé tous les projets des villes. Thibault Lefèvre.
Fini l'amende à 17 euros partout et pour tout le monde, ce sera 60 euros à Lyon ou encore 50 euros maximum à Paris. La cible de l'augmentation de ce qui s'appelle désormais le forfait post-stationnement, ce sont les fraudeurs, bien sûr, mais pas seulement. Pierre Chasseret est le délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes.
Les villes cherchent avant tout à créer une manne financière. Ce montant de forfait post-stationnement, anciennement amende, ne peut pas excéder le montant d'une journée payante. Ça veut dire que pour augmenter, par exemple, la ville de Nantes à hauteur de 35 euros le PV de stationnement, elle va devoir passer à un montant horaire de plus de 3 euros de l'heure, ce qui est absolument inacceptable.
Pas d'augmentation du prix du stationnement à Brest, mais une amende qui s'élèvera à 25 euros, environ 300 000 euros de ressources supplémentaires par an qui devraient être réinvestis dans la politique des transports. Alain Masson est vice-président de la métropole, il est chargé du stationnement et des déplacements.
Ça peut servir à améliorer la signalétique, c'est aussi de faire un peu plus de zone 30. Les 300 000 euros par an, ça partira assez vite hein, par rapport à tout ce qu'il y a à faire.
Parmi les autres mesures prévues dans la réforme, l'intensification des contrôles. À Paris, par exemple, moins d'un automobiliste sur 10 paie son stationnement.
Voilà donc pour les villes où les PV vont augmenter, mais dans certains cas, ils resteront à 17 euros, à Lille et Marseille notamment. Ils baisseront dans une poignée de villes, 16 euros à Nice, 11 à Calais et 10 à Castres. La troisième journée de Ligue des Champions, Monaco déjà sous pression ce soir avant d'accueillir les Turcs de Beşiktaş. Une défaite serait quasiment synonyme d'élimination. Et puis avis aux amateurs de basket et à tous les insomniaques, le championnat nord-américain de NBA reprend la nuit prochaine. Golden State, champion 2017, remet son titre en jeu ce soir, cette nuit plutôt, face aux Rockets de Houston.
Et enfin, c'était le rendez-vous de la scène musicale indépendante, hier soir à la Cigale à Paris.
Le prix des Indés, deuxième édition, vous l'avez peut-être suivi en direct sur Inter, si ce n'est pas le cas, on rembobine. Côté vainqueur, la chanteuse Camille décroche le prix du meilleur album, Fishback, celui de l'album révélation de l'année. La suite du palmarès, c'est Mathieu Culeron qui nous la livre.
Bonsoir.
Salut Didier.
Parmi les 9 prix décernés, 2 nouveautés, un prix spécial du jury et un prix du live.
Genève. Et cette année, c'est Rhône qui remporte le prix pour son concert à la Philharmonie. L'artiste de musique électronique particulièrement ému de recevoir le trophée des mains de Jean-Michel Jarre.
Il s'agit de Rhône pour sa création musicale à la Philharmonie de Paris. Bravo!
Double surprise, ouais, Jean-Michel Jarre, c'est très touchant qu'il me remette ce prix. C'était mon premier disque, mais c'est complètement dingue. Si le petit garçon de 15 ans, 14 ans voyait ça, il y croirait pas, c'est fou.
Et puis il y a la récompense particulièrement méritée du petit label qui revient à Jean-Baptiste Guillot, fondateur du label Born Bad, un prix qui redonne confiance.
Tous les jours je me remets en question, tous les jours je dois me motiver encore à me dire tiens bon. D'où l'intérêt aussi de ce prix, ça vous permet de comprendre que vous avancez, ça vous permet de comprendre que vous n'êtes pas seul. C'est pareil, moi c'est un label que j'ai fait beaucoup seul, donc vous avez très peu de signes qui vous arrivent au quotidien pour vous dire où vous en êtes. Donc oui, c'est important ce genre d'événement.
Le prix des Indés qui cette année a également célébré Camille, Fishback ou encore The Blaze et Christine and the Queens.
Mathieu Culeron, donc, pour le palmarès de cette deuxième cérémonie du prix des Indés. Enfin, on termine avec un beau bébé. Nicolas, c'est le cas de le dire. Il vient de voir le jour à Hanoï, au Vietnam. Sur la balance, il affiche tout de même un peu plus de 7 kilos, 7,1 précisément. Sachez que ce n'est pas le record. Toujours détenu par un gros bébé italien né en 1955 qui pesait 10 kilos tout rond à la naissance.
Merci, mon cher Marc Fauvel. Il est 8h16, la météo.